Vous nous avez montré que saint Thomas reconnaît lui-même que toute connaissance intellectuelle nous vient par les sens, et que cela supprimerait le point de vue de l'illumination directe de l'intelligence affirmée par les néoplatoniciens, lesquels affirmaient aussi que cette lumière nous est donnée directement par Dieu, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est l'illuminisme de Saint-Augustin, c'est ça dont je faisais allusion. La fameuse question de l'illuminisme de Saint-Augustin, qui est une grave question, une question très importante, et que vous verrez progressivement, parce que c'est une chose difficile, que je ne peux pas exposer ici. Toutefois, n'y aurait-il pas possibilité d'une lumière infuse par les dons de l'Esprit-Saint, par exemple les dons de sagesse et les dons de science? Et est-ce que les locutions intérieures affirmées par certains mystiques ne seraient justement pas une illustration de ce mode d'illumination, le concept ou les concepts étant directement imprimés dans l'intelligence par les dons d'une lumière divine? Bon, on va essayer de répondre à ça. Il y a tout un problème, enfin, c'est le problème de la connaissance prophétique. C'est ce que je compte faire avec vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, nous voyons ça, puis nous verrons la foi, je crois que ce sera bien, puis nous verrons la prophétie. Je crois que ce serait bien de voir les trois successivement, parce que les trois successivement nous aident. Or, une question comme celle-là ne peut être répondue que dans la mesure où on comprend ce que c'est que la foi, ce que c'est que la prophétie. Dans quelle mesure, dans la prophétie, n'y a-t-il pas de nouveaux fantasmes, saint Thomas dit toujours des fantasmes, qui nous sont donnés, qui peuvent nous être donnés par mode d'infusion. Et donc il peut y avoir une lumière particulière qui illumine le prophète. Alors c'est le prophète comme prophète. Vous voyez, par exemple, quand on parle d'élocution ici, bon, l'élocution peut être ou au niveau mystique ou au niveau prophétique. Il ne reste pas toujours commun. Prenez les voix de Jeanne d'Arc. Quoi. Quand Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'il prend ses voix? Qu'est-ce que c'est que la voix de Jeanne d'Arc? Quand Socrate parle de sa voix, il parle aussi des voix, sa voix, Socrate. Quelle différence est-il entre la voix des voix de Jeanne d'Arc et les voix de Socrate? C'est pas si commun que ça de bien distinguer. Parce que quand Jeanne d'Arc parle des voix, je vais noter, c'est intéressant, c'est très intéressant à suivre, parce que c'est d'un théologique merveilleux. Il faudrait dire ça après, mais je ne sais pas si on l'a ici. On va demander ça au bibliothèque. La réhabilitation de Jeanne d'Arc. Alors, ce serait très dur, évidemment, à lire au réfectoire, parce que c'est quelque chose de théologique, mais ce serait très intéressant. Je me demande jusqu'où on pourrait pas le lire. Évidemment, je crois à ce moment-là, tous ceux qui voudraient suivre arrêteraient, écouteraient. Mais ce serait très beau, parce que la réhabilitation de Jeanne d'Arc, qui est faite par un dominicain de Saint-Jacques, est extraordinaire au point de vue proprement théologique. Parce que ça joue sur le point de vue des dons et le point de vue des charismes, en montrant la différence entre les deux. Vous voyez, cette question ici, et c'est très souvent ce qui arrive quand il parle de locution. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est d'ordre charismatique? Est-ce que c'est d'ordre mystique? Le charisme comme tel, il est mystique, mais il est mystique à l'état second, c'est-à-dire il n'est pas mystique au sens absolu. Le mystique à l'état absolu, c'est les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit ne nous donnent pas de nouveaux concepts. C'est le charisme prophétique qui peut nous donner de nouveaux concepts. Et c'est pour ça que les voix de Jeanne d'Arc sont d'ordre charismatique. C'est pas du... Et Jeanne d'Arc fait très bien la différence. C'est pour ça qu'elle peut dire au cher évêque qui l'interroge, n'est-ce pas? Elle peut lui dire qu'il n'a rien à voir là-dedans. Parce que c'est vrai. D'ordre charismatique. C'est une mission particulière pour le roi de France. Donc l'évêque Cochon n'a rien à voir. Le Budgester. Et alors lui, il fera une confusion terrible, justement. Il mettra comme ça Jeanne dedans, disant, mec. C'est pour ça que c'est très intéressant. La question ici posée est très délicate. Parce que je vais essayer avec vous simplement de montrer les niveaux. Nous avons donc un niveau premier, si vous voulez, le propre de la connaissance intuitive. Donc notre intelligence et nos sensations. Saint Thomas dit expressément, avec beaucoup de force, à la suite d'Aristote, je reste. Tout ce qui est dans l'intelligence, donc tous les intelligibles sont passés par les sens. C'est ça le point de vue propre d'Aristote. C'est de montrer que l'intelligence n'a pas d'autre source de renouveau que l'expérience. Quand il dit que le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience, ça veut dire ça. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai une autre source, alors le point de départ de la philosophie, c'est donc l'inspiration. Le poème de Parménide, c'est pas l'expérience, son point de départ, c'est la révélation. C'est la révélation de la déesse, donc c'est une inspiration nouvelle. Alors, pour Aristote, tout ce qui passe, tout ce qui est dans l'intelligence, tous les intelligibles sont passés par les sensations. À cause de l'expérience. Mais il distingue bien le domaine des intelligibles du domaine des sensibles. Ne disons pas que les intelligibles n'atteignent pas dans la réalité autre chose, la réalité. Autre chose que les sensibles. Ce serait Octave. Octave, l'intelligence ne saisit rien de plus dans la réalité que ce que les sensations. Tandis qu'au contraire, et alors là, on voit très bien la séparation, c'est exactement comme la séparation de Heidegger entre être et étant. L'existence sont au niveau des sensations. L'être, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est directement l'être, en dehors des étants. Donc, une séparation complète entre les deux. Pour saint Thomas, à la suite d'Aristote, il n'y a pas de séparation. C'est à travers les sensibles, donc donnés par l'expérience, à travers les sensibles donnés par l'expérience, que nous découvrons les intelligibles. Et c'est pour ça qu'il y a nécessairement abstraction pour passer du sensible à l'intelligible. Et il faut nécessairement passer, puisque les sensibles vont nous donner une image, il faut donc nécessairement l'intellect agent pour illuminer les images et à partir des images donner les intelligibles. On pose l'intellect agent pour justement nous faire comprendre que toutes les déterminations que nous avons dans les intelligibles viennent des sensations. C'est facile à comprendre une fois qu'on est un petit peu habitué au langage aristotélicien. Deuxièmement, il y a le lumen fidei. La lumière de la foi. La lumière de la foi qui vient comme un habitus, et puis, surnaturel, vient illuminer l'intelligence, ennoblir l'intelligence, et permettre à l'intelligence de poser des actes qui sont de connaissances surnaturelles. Donc, on est à un niveau surnaturel, on n'est plus au niveau naturel. Est-ce que l'habitus de foi, est-ce que la lumière de foi, nous apporte de nouveaux concepts? Saint Thomas dit non. Donc, il n'y a aucune lumière nouvelle au niveau des concepts. Le Lumen Fidei apporte un nouveau jugement d'existence. Et donc, ne nous apporte pas de nouvelles appréhensions. Vous voyez, c'est là où la distinction appréhension et jugement est si importante. Parce que vous voyez, si vous faites la confusion entre les deux, vous ne pouvez plus vous y retrouver. Parce que, ou vous dites, la foi n'ajoute rien de plus, uniquement le mérite, la charité. Ou la solution serait. Ou au contraire, vous direz, la foi apporte quelque chose de tout à fait nouveau,
Parce que justement, elle a de nouveaux jugements, donc elle apporte une nouvelle lumière et vous tombez dans l'individu.
Oui, donc justement, est très très intéressant. C'est ça que je crois que c'est important pour nous de voir après cette introduction, qu'on cherche les rapports entre l'intelligence et la foi. Alors on les fait à la racine plutôt que de les faire apologétiquement. Quand c'est plus intéressant, ça reste beaucoup plus pour nous quelque chose à saisir. Donc l'habitude de foi n'apporte pas une nouvelle illumination. Troisième position, le charisme prophétique. Nous sommes tous un peu prophètes, nous savons très bien, nous avons tous l'expérience du charisme prophétique. On était quand même une fois prophète dans notre vie, hein. Un bon moment, un bon tournant. Quelquefois, on confond le charisme de prophétique avec tout simplement une inspiration poétique. Ça peut arriver. Voilà, j'ai été inspiré. Donc, je suis prophète. Oui. Alors, il y a le charisme prophétique, la prophétie. La prophétie n'est pas, selon saint Thomas, de la grâce substantielle, de la grâce habituelle, c'est des charismes. Les charismes viennent s'ajouter, non pas pour la sanctification personnelle de l'individu, mais pour réchauffer la communauté. Toute communauté qui veut être un peu chaude a besoin de charismes. C'est la ferveur intérieure de l'oraison, vous comprenez ? Oui, c'est tout intérieur. Donc il faut le contrepoids des notions métaphoriques. Pour bien se dire, toute la distance existe entre les rationnels métaphoriques, et le mystère lui-même. Et ces raisons métaphoriques cachent le mystère, et ces raisons métaphoriques sont obligées, pour être appliquées à Dieu, d'impliquer entre les deux la négation. Dieu n'est pas, le Christ n'est pas un lion, mais il peut y avoir quelque chose dans le lion qui me permet de regarder une qualité du Christ. Le lion est royal. C'est ce que je veux dire quand je dis le lion est royal. Je veux regarder que le lion a justement une majesté particulière parmi tous les animaux, qui lui permet d'être le roi des animaux. Il est royal. Il a quelque chose de royal. Vous voyez, je regarde la propriété. Je ne regarde pas ce que c'est que le lion. C'est par la propriété. Par la propriété, il peut y avoir une transposition. Le lion manifeste magnifiquement ce que c'est d'être royal, d'avoir un cœur grand. Alors, parce qu'il a un cœur grand, je peux l'appliquer au Christ. C'est par la propriété. La fameuse chose qu'on dit habituellement, le latri. Quand vous dites que le latri, c'est métaphorique. Hein. Je n'ai jamais vu rire un lac. Mais pourquoi vous dites que le latri, c'est parce que vous transposez du rire de l'enfant au lac. La propriété. C'est pas le rire comme tel, c'est la propriété du rire. Le rire illumine la face de l'enfant. Le est illuminé par le rire. Le lac est illuminé. Vous transposez la propriété. Et alors, par la propriété, vous avez donc une possibilité de voir une analogie. Et ce n'est pas une analogie directe. C'est propre de l'analogie métaphorique. L'analogie métaphorique passe toujours par la propriété. Elle n'exprime pas ce qu'est la chose. Tandis que quand vous prenez le verbe, vous exprimez ce qu'est le verbe, et vous l'attribuez analogiquement à Dieu. Pas métaphoriquement, analogiquement. Vous voyez ? Et alors, un des aspects très importants de la philosophie et de la métaphysique, c'est dans le langage de Dieu, de pouvoir discerner ce qui est analogie propre et analogie métaphorique. Celui qui n'a jamais fait une métaphysique, et qui reste uniquement au niveau de la description, ne peut pas distinguer l'analogie métaphorique de l'analogie. Mais alors, comme on ne peut plus distinguer l'analogie propre de l'analogie métaphorique, on risque de dire que tout est métaphorique.
C'est une parabole, est-ce que c'est métaphorique? Vous pouvez essayer de distinguer de cette manière-là. Alors, au bout d'un certain temps, vous aperçoit que, en effet, c'est très important de faire le discernement entre analogie métaphorique et analogie propre pour pouvoir mieux discerner ce qui est attribuable à Dieu et ce qui n'est pas attribuable à Dieu. La théologie, les analogies propres peuvent constituer la théologie scientifique. Les analogies métaphoriques vont être reprises en théologie. Vous entendez symbolique. Vous avez déjà dit, par exemple, le pain de vie. Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est propre comme analogie? Quand Jésus dit je suis le pain de vie, quand Jésus dit je suis la lumière du monde, est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est une analogie propre? Dire que le Verbe est lumière, ça se mal dit. Est-ce que c'est métaphorique ou est-ce que c'est une analogie propre? Pas si comme à tout ça de répondre, hein. On est un peu coincé. Alors c'est ça qui fait comprendre justement le passage d'une théologie mystique à une théologie scientifique. La théologie mystique se sert de métaphores, d'analogies métaphoriques. La théologie scientifique les met de côté. La science de cerveau, le cœur, est-ce que c'est une analogie métaphorique? Est-ce que c'est une analogie propre? Quand vous parlez du cœur du Christ, alors évidemment, ça c'est propre, parce que le Christ a eu vraiment un cœur, mais métaphoriquement, se servir du cœur comme symbole de l'amour. Est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que c'est proprement une analogie propre? Réfléchissez, oui, c'est intéressant parce que ça nous oblige de comprendre que c'est pas si tomate que ça, de comprendre la distinction entre une analogie propre et une analogie métaphorique. Alors l'article 10, l'écriture sainte sous une lettre unique a-t-elle plusieurs sens? Ça nous verrons la fois prochaine.